Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est le NRV, le magazine de la bonne soirée, que dis-je, de la bonne double soirée. Ça commence dès 18h en avant-première, en podcast, avant le passage à l'antenne, 22h minuit. Première partie, c'est toujours l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Bienvenue à toutes et à tous, programmation semaine de vacances, le meilleur de 2019. Et ce soir, jeudi 2 janvier, deuxième NRV 2020. Alors, ça se fête au champagne? Eh bien non. Au vin, retour sur une thématique qui nous a beaucoup occupé cette année, l'agriculture, la permaculture, le biodynamisme, les risques de la chimie, des sujets qui se croisent dans les deux émissions qu'on a choisi avec Benoît Lagan de réécouter ce soir. D'abord, des raisins de la colère à l'âme des vins, la guerre des vignes est déclarée, c'était en novembre dernier, à l'occasion de la sortie du film Vitis Prohibita, qui revenait sur l'histoire méconnue des cépages interdits. Et puis ensuite, malaise paysan, six pieds sur ou sous terre, là encore une émission suite à la sortie d'un film, et pas n'importe quel film, Au nom de la Terre, qui s'est imposé comme un phénomène de société avec plus d'1 million d'entrées. En live, Marion Guilbeault.
Si vous avez la nostalgie des voix de Janis Joplin ou d'Aretha Franklin, l'américaine Brittany Howard n'a pas fini de vous enivrer et on va les réécouter en live dans le NRV.
Et puis bien sûr, ce sera ensuite France Inter Plus, hein, la deuxième partie, les archives extraordinaires de France Inter. Mais tout de suite, allez, le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on ouvre tout de suite avec une addiction. L'alcool, non. Catherine préfère être stone avec toi.
J'aime être stone avec toi. J'aime être stone.
Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone.
Avec toi, Catherine fume toute la moquette dans le NRV et nous, on lève le coude ce soir. Le vin est à l'honneur pour commencer l'année. On avait plein de questions avec Benoît Lagan sur les interdictions des cépages, l'influence du réchauffement sur les terroirs, le rôle des politiques dans la transition de la chimie vers le bio. Plein de choses à demander à nos invités quand il était question de parler du vin. Benoît Quenu publiait La vie mystérieuse du vin. Marie-Ange Gorbanewski avait filmé L'âme du vin en Bourgogne. Philippe Toinard était le rédacteur en chef et il l'est toujours de la revue vue 12,5 degrés, et Stéphane Ballet sortait son film Vitis Prohibita, une histoire des cépages interdits dans le monde entier. On y croisait des personnages hauts en couleur, savoureux, comme dirait Benoît Laguenne.
On a classé les cépages d'abord pour la France et pour l'Europe. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez. C'est la liberté tenue. La vraie liberté, c'était avant 1950, chacun plantait ce que voulait, on le foutait la paix. Depuis, on est dans l'administration, dans les jugements, tout le bordel à Bruxelles. C'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière. Alors, dans chaque département, vous avez des cépages recommandés que vous pouvez planter. Il y a des cépages autorisés qu'on trouve pas bons, qui ont été classés avec des abattements sur les droits de plantation. Et puis les autres, c'est les cépages tolérés ou interdits.
Michel Galabru est toujours vivant. C'est Pierre Gallet qu'on vient d'entendre.
C'est le fabuleux Pierre Stéphane Gallet, ouais. Qui est un ampélographe, c'est le pape de l'ampélographie. Il approche ses 99 ans, il est toujours en train d'écrire des livres. C'est une encyclopédie vivante.
Alors dans ce film, justement, vous revenez sur ce que vous appelez la tentative d'assassinat réglementaire, la mise au ban d'une poignée de cépages, c'est-à-dire des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d'avoir mauvais goût, de rendre fous. Pour quelles raisons, véritablement, les a-t-on interdits ?
Il y a la raison officielle et la raison officieuse. Déjà, ils avaient des forts rendements. On parle dans les années 30. Hein. Mmh. Donc, ils ont été interdits pour assainir un petit peu et réguler un peu la production. Ça, c'est la première vague de prohibition. Il y a eu 6 cépages qui ont été
interdits.
On a l'Isabelle, le Jacquet, le Clinton, l'Herbemont, le Noah et l'Othello. Voilà. Ceux-là, ils sont toujours interdits formellement.
Pour autant, on en a un sur la table.
Pour autant, oui, mais alors, interdit, c'est tout là l'intérêt, ouais. C'est interdit de quoi ? Donc ils sont interdits à la commercialisation. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un avenir professionnel avec ces vins-là. Voilà. Après la guerre, à la fin des années 50, sont arrivés un nouveau bouleversement dans la profession, avec les classements des cépages, la mise en place des régions, la régionalisation, etc. Et on a mis au banc la quasi-totalité d'une catégorie de vins, les vins hybrides.
Et c'est-à-dire les vins hybrides.
Alors vous avez nos cépages européens, les Vitis vinifera, voilà, c'est une espèce, Vitis vinifera, et vous avez les hybrides qui sont donc une hybridation entre ces cépages-là et d'autres espèces telles que Vitis labrusca, Vitis riparia, voilà, ce sont d'autres espèces avec des goûts différents et des caractéristiques différentes.
Donc voilà. Ces vins-là ont été mis au banc aussi.
Ces vins-là ont été mis au banc. Certainement pour de bonnes raisons. Je ne conteste pas le fait qu'à l'époque, il fallait faire quelque chose pour assainir, pour augmenter la qualité des vignobles. Sauf qu'en faisant ça, on s'est privé de toute une partie de cépages qui sont naturellement résistants aux maladies. Et c'est quand même un petit peu dommage. Alors à l'époque, faut quand même se remettre dans le contexte. On pensait que, et en toute bonne foi, que la chimie pouvait résoudre tous les problèmes. Donc on pouvait traiter, et puis il y avait un problème de champignons, de maladies, de quoi que ce soit. Hop, on traitait et on réglait tous les problèmes. Voilà. Aujourd'hui, on est plus regardant parce qu'évidemment, on se rend compte que c'est pas sans conséquence. Voilà. Et ces cépages qui sont aujourd'hui interdits, on les a accusés un petit peu de tous les maux. Effectivement, on a dit, mais ils sont pas bons, ils font du mauvais vin, ils font, voilà. Parce qu'il fallait bien les écarter, il fallait bien trouver des motifs, voilà.
Mais le goût... ils sont toujours cultivés, alors, puisque il y a une bouteille d'Isabelle sur le... Mais alors, ils servent à quoi?
Eh ben, ils sont cultivés parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, mais pas forcément professionnels. Et par exemple, dans les Cévennes, toute la première partie du film que j'ai tourné, c'est quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine. C'est très important. Ils sont extrêmement attachés à ça. Oui.
Bon, nos camions, ils sont bons, ça va?
Alors, c'est plus compliqué. Enfin, pardon, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut connaître l'histoire de France bien avant. Il faut savoir qu'en 1788, 75% du vignoble français est planté en Vitis vinifera, en cépage noble. Et les plantations de vignobles françaises sont sous décret royal. Parce que la France est le pays du vin dans tout l'Empire européen. Vraiment, on est au-dessus du lot partout. L'Italie a des cépages nobles, l'Espagne aussi, mais ce sont des plantations marginales. Donc il y a un attachement profond à ce Vitis vinifera qui va révéler le terroir plus que les cépages communs. Et puis à la Révolution française, on a arraché énormément les vignes nobles, les vignes nobles, parce que on a planté énormément de plants communs. On est passé de 30 millions d'hectolitres.
C'est un effet de la Révolution, c'est aussi, ça. Donc parce qu'un effet idéologique.
Voilà, il faut remonter à l'histoire pour comprendre comment la culture française fonctionne. Donc là, il se passe un arrachage colossal. La Bourgogne va résister pour pas arracher son pinot noir, voilà. Et puis qui vient de, le vignoble bourguignon est plus en avance parce que Cluny et Cîteaux sont nés là. Hein, donc il y a une espèce de mythologie forte et un attachement très fort. Mais les autres vignobles, par exemple le vignoble de l'Orléanais, qui est un très très grand terroir, très grand territoire de vignobles, pardon, va disparaître pratiquement. Hein. Il reste pratiquement plus rien dans le vignoble de l'Orléanais. Et d'autres vignobles vont disparaître.
Et donc à la place des cépages communs.
Voilà, on va planter des cépages communs en grande quantité et on va passer de 30 millions d'hectolitres hectares en 1788 et dans les années qui vont suivre la Révolution, on va être à 70-90 millions d'hectolitres. Hein. Donc des cépages plus productifs. On est obligé à l'époque de rajouter du sucre. Donc Chaptal, en 1804, qui est ministre de l'Industrie, va faire ce décret de chaptalisation pour arrondir les vins, etc. Ce qui va se passer à la Restauration, on n'exporte plus. Là, on n'exporte plus de vin. Le vin français n'a plus d'image. Et donc, à la Restauration, on va commencer à vouloir replanter des vignes nobles. Et puis ensuite, il va y avoir Napoléon III qui va vraiment insuffler une vraie force en faisant les classements, demandant le classement des grands crus de classés de Bordeaux et les grands crus de Bourgogne. Donc ces classements en 1855 qui vont redonner une image. En fait, ces classements ont été faits
oui, pour redonner une image à la France,
mais pour redonner une image. Voilà. Et donc tout ça va faire que, au fur et à mesure, malheureusement, beaucoup de cépages, même Vitis vinifera, vont disparaître.
Oui.
Vont disparaître parce qu'on n'a plus les plants. Et ensuite, il y a le phylloxéra qui va arriver. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'est pas développé seulement avec les plants communs. Il s'est développé aussi parce qu'on ne savait plus planter les cépages Vitis vinifera. On ne connaissait plus l'entretien d'un sol de vigne. Et donc, on a planté les cépages communs nobles comme les cépages communs, sans connaissance qui étaient dans les monastères depuis 1000 ans et sans pandémie viticole. Il y avait très peu de pandémies dans le milieu de viticole. Et donc, à partir de ce moment, on plante les plants nobles comme les plants communs. Et là, arrive un véritable massacre, l'oïdium, le mildiou, le phylloxéra, en moins de 30 ans. C'est un carnage. Là, on va réarracher et on va replanter. Mais on se rend, là aussi, on va encore faire disparaître un nombre de cépages incroyables. Ça va être une catastrophe au début parce qu'on va mal greffer, etc. Beaucoup de cépages ont été arrachés, pas parce qu'il y avait du phylloxéra, mais parce que tout simplement, un plant greffé produit 2 à 3 fois plus qu'un plant non greffé. Donc quelqu'un qui a greffé, les autres, les voisins disent bah, « faut arracher nos vignes non malades pour les planter ». Voilà. Et donc cette succession de choses va faire que, ensuite il y a l'AOC qui va supprimer encore parfois des bons cépages, parce qu'on est dans l'époque productiviste, et donc il faut produire.
Faut du rendement,
et on va arracher des cépages qui donnent peu, mais qui sont très bons. Et donc aujourd'hui, on fait 90% de nos vins avec 15-20 cépages en France.
Si on goûtait de l'Isabelle, Stéphane Ballet.
Comment on s'organise?
Je ne sais pas, Benoît Lagan s'est précipité. C'est la première fois que je vois courir. Généralement, on l'appelle la marmotte, mais là... La marmotte...
Vous avez déjà vu Laurent Coumin?
Pas du tout.
On fait passer les verres.
On va passer les verres. Très radiophonique comme émission. Et hop, c'est bon. Marion Guilbeault. Bruno Quenu a déjà...
J'ai déjà trempé les lèvres.
A déjà trempé ses lèvres.
Mais très sucré.
Ouais, c'est sucré, Isabelle, ouais.
Mais c'est très sucré. On dirait du Coca-Cola. Je plaisante, ça n'a rien à voir. Marion ?
Oui, bah, il y a beaucoup de sucre, ça c'est évident, c'est un premier truc. Après, c'est un peu... Ça descend assez vite, je trouve. En bouche, ça reste pas très longtemps en bouche.
Oui, c'est presque étonnant. Alors déjà, je connaissais pas le cépage Isabelle, j'ai découvert dans votre documentaire. On est presque sur un vin de dessert, en fait. Si on savait pas, on serait presque
un muscat.
Un muscat, un vin doux naturel, presque. Mm-hmm. Ouais.
Non, mais les raisins d'Isabelle sont cueillis sans surmaturité, aux alentours de 15 degrés, hein, facilement. Hein.
Mmh. Voilà, oui, donc, vous savez ce que je viens de voir
c'est
dans
pour
le
ça
studio.
Que ça finit pas de fermenter et ça, on a toujours des
Marion Lelay qui est venu chercher la bouteille pour la présenter à sa... C'est ce que je viens de voir. La bouteille a été prise du studio directement dans la cabine technique. Bravo.
On n'a pas amené une Conti.
Non, bah, heureusement, vous imaginez.
On peut partager.
C'est quoi l'histoire de ce vin précisément? Il est pensé comment? Enfin, donc vous nous l'avez ramené, donc il est produit par qui précisément?
Alors là, c'est un vin d'Italie. J'aurais pu ramener le vin des Cévennes. On en a beaucoup dans les Cévennes, mais bon, il se trouve que dans ma cave, il restait juste cette bouteille-là.
Il a le même goût dans les Cévennes?
Pardon ?
Il n'a pas le même goût dans les Cévennes.
Bien sûr qu'il a le même goût, oui.
Le terroir est le même en Cévennes et
c'est
en Italie.
C'est-à-dire que c'est un cépage qui est tellement particulier, ouais, qui a des caractéristiques tellement propres, avec des goûts de fruits, mm-hmm, de fruits des bois, de voilà, quelque chose qui l'exalte comme ça. On le reconnaît entre mille, hein, c'est sûr. Hein. Alors, c'est un vin qui n'est pas professionnel, c'est un amateur, un Italien. Il a une entreprise, il fait de la quincaillerie, il a un grand bâtiment, et à l'arrière du bâtiment, il a installé sa cave.
Il est complètement hors la loi, en fait.
Non, pas du tout.
Non, mais il ne peut pas le commercialiser.
Il ne le commercialise pas. En fait, c'est les cadeaux, il offre les bouteilles à ses clients et ses fournisseurs.
On achète deux écrous, on a droit à un Isabelle.
Il y a
super.
Beaucoup de clients.
C'est vrai? Ah oui, d'accord.
Il a coulé tous les quincailliers du coin.
C'est ça, c'est un Italien. Si Stéphane Ballet s'est intéressé aux cépages interdits en Europe, eh bien Marie-Ange Gorbanewski, elle, a fait le tour des grands crus en Bourgogne. Elle a notamment rencontré le vigneron Frédéric Lafarge, et c'est lui qu'on entend dans cet extrait de L'âme du vin, le film de Marie-Ange Gorbanewski.
Mon père, durant les années 60-70, n'a jamais utilisé de fertilisants, de potasse, d'engrais pour fertiliser la vigne, ni de produits de synthèse pour traiter. Il a toujours gardé ses convictions terriennes, qui voyait que ses vignes allaient bien, que ses sols étaient vivants, que ses vins étaient très bons, et il voyait que c'était complètement contre nature d'amener tous ces fertilisants-là. Et ça, c'est une grande chance, parce que c'est rarissime aujourd'hui d'avoir eu cette sagesse dans ces périodes qui étaient prônées par tout le monde à l'époque.
La particularité de Frédéric Lafarge, c'est que ses vignes font vraiment partie de sa famille. Il parle de son père dans l'extrait que vous nous avez fait écouter. On voit son père après dans le film. C'est un monsieur de 91 ans. C'est un monsieur extraordinaire. Tous les vignerons que j'avais rencontrés m'avaient dit « Il faut que vous voyez Michel Lafarge ». Et Michel Lafarge, qui a 91 ans, est un des rares vignerons qui n'a jamais rien mis de nuisible dans ses vignes. Ils étaient quelques résistants en Bourgogne, mais ils pouvaient être comptés sur le doigt d'une main. Les gens qui n'ont jamais rien mis, alors qu'on les prenait pour des fous, parce que tout le monde mettait des pesticides, des engrais chimiques, enfin, toutes ces choses-là.
Philippe Tonnard, vous connaissiez ce héros?
Non, je ne le connaissais pas comme ça, mais il y en a plusieurs dans chaque région. C'était bien dans l'extrait de rappeler effectivement que c'était une période, il y a eu une période où l'agriculture, qu'elle soit viticole ou qu'elle soit céréalière ou autre, c'était de retrouver de la productivité et donc de faire du rendement et donc d'utiliser des pesticides, des insecticides. Aujourd'hui, on en revient. Il y a une nouvelle génération qui est en place. Il y a des anciens qui ont compris qu'il fallait aussi revenir à ça. Leurs enfants s'y mettent. Aujourd'hui, en bio, par exemple, c'est 65 000 hectares qui sont en bio. Ça progresse de 7
en
à 10.
En bio ou en biodynamique?
En bio, globalement. Qui ont le label AB. C'est à peu près entre 7 et 10% chaque année de plus. Si on compte ceux qui sont en reconversion, donc ils ont 3 ans, donc les 1, les 2 et les 3 années, on arrivera à plus de 94 000 d'ici 3 ans. Donc voilà, on est sur un mouvement qui prouve bien qu'on rejoint un monsieur comme ça qui, lui, a résisté, et d'autres vont suivre le glorieux sujet de cette année.
Quand vous avez créé votre revue 12 degrés 5, quelle était l'idée, en fait? Quels étaient les vins que vous vouliez défendre? Les vins biodynamiques, les vins naturels, les vins bio?
Oui, c'est ça. Vous avez cité les trois. L'idée, c'était pas forcément de défendre les vins, mais défendre les hommes qui ont décidé que la terre avait suffisamment souffert pendant des décennies et qu'il fallait passer à une autre viticulture où le terroir reprenait le dessus, où le lombric retrouvait sa place. J'ai vu ça dans le film de Stéphane. Voilà, il fallait mettre en avant ces gens qui ont décidé de travailler un peu comme la génération des années 40, 45, 50, qui eux n'avaient jamais vu la tête d'un pesticide.
On n'y comprend pas toujours quand on vin naturel, bio, biodynamie, effectivement, Laurent le disait. Et d'ailleurs, je crois que chez les experts aussi, on n'aime pas trop ce combat entre les mots. C'est quoi cette guerre qu'il y a autour de ces mots-là, Bruno Quenioux?
La bio, il y a eu un gros mouvement dans les années 60 avec des mouvements qui étaient plus d'ordre idéologique, c'était avec parfois des pensées sincères, mais avec une vision du vin qui n'était pas toujours celle que nous on prône, c'est-à-dire des vins de haute tradition et qui racontent véritablement le terroir. Donc il y a eu une très mauvaise critique en France sur le bio. Moi, je faisais partie des gens qui défendaient le bio d'un côté et en même temps tapaient sur les vignerons bio, parce que les vins étaient vraiment, quand on allait dans une biocoop acheter du vin, je vais vous dire, fallait avoir les dents bien serrées, hein. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, tout doucement, il y a eu le mouvement de la biodynamie qui est arrivé derrière. Si on le réduit juste au label, c'est la non-utilisation de chimie sur la vigne et sur le sol. Donc, on a juste droit au soufre jaune en poudre et à la bouillie bordelaise, qui est donc les gens quand ils voient de la bouillie d'un truc bleu, ils se disent ah, ça doit être mauvais. C'est la bouillie bordelaise, c'est autorisé en bio. C'est du sulfate de cuivre avec de la chaux et du soufre jaune, du soufre mouillable comme on appelle. Et donc ensuite, il y a eu la biodynamie qui est arrivée. La biodynamie va rajouter les préparats de Rudolf Steiner, que ce soit des tisanes ou des préparats animaux. Hein. Mais il y a des gens, les plus grands vignerons, si vous voulez, ils utilisent ce qui les intéresse de la biodynamie. Ils sont pas obligés d'utiliser tout le pack de la biodynamie.
Et dans le film, justement, de Marie-Ange Gorbanowski, à propos de la biodynamie, on dit que ça déstresse la vigne.
Répare et cicatrise la vigne.
Oui, c'est Frédéric Lafarge qui dit ça. C'est Frédéric qui nous parle de la biodynamie. Oui, il a vraiment à cœur que ces vignes soient heureuses. Et il le dit plusieurs fois dans le film, et moi je l'ai vu très souvent travailler pour préparer mon film, pour aller le filmer, et c'est vrai qu'il est chouchoute. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la différence entre l'allopathie et l'homéopathie, comme quelqu'un qui serait gavé d'antibiotiques régulièrement, et quelqu'un qui se soignerait autrement par de la médecine douce. Donc pour lui, c'est un peu de la médecine douce. On ne parle pas beaucoup de la biodynamie dans le film. On montre surtout le travail.
On laboure avec un cheval.
Enfin, on laboure. À la Romanée-Conti, on laboure plusieurs parcelles du domaine à cheval de novembre à juillet. En fait, ils analysent la terre régulièrement pour voir toute la micro-vie qu'il y a dans la terre pour essayer de que les labours soient doux. Parce qu'un labour doux, ça fait respirer la terre, ça aide les micro-organismes à vivre, ça ne la violente pas. Il faut pas violenter la terre. Et ces grands vignerons m'ont expliqué, et Bernard Noblet aussi, l'ancien chef de cave de la Romanée-Conti, m'expliquait que la biodynamie permettait vraiment d'exprimer avec beaucoup plus de finesse le terroir dans les vins.
Alors, il y a un autre sujet qu'on aurait bien aimé aborder, c'est le sujet de l'écologie, notamment plutôt du climat avec le réchauffement climatique, Benoît Lagane. Oui, parce que est-ce que face aux enjeux climatiques, est-ce que, par exemple, Philippe Tonnard, vous voyez des terroirs, des cépages menacés, des vignerons inquiets par rapport à ces questions-là, ou qui commencent à préparer le terrain pour changer, évoluer ?
Alors il y a deux niveaux, il y a ceux qui sont un peu inquiets, effectivement, ceux qui sont éventuellement plus au sud, et il y a ceux qui se disent c'est une bonne nouvelle pour pouvoir replanter dans des régions où le vin était banni depuis longtemps. Et on voit en Bretagne, par exemple, qu'on replante depuis presque une bonne décennie. Donc les Bretons, les Normands, dans le Nord-Pas-de-Calais, on commence à trouver des vignes, se disent que peut-être, effectivement, on va pouvoir, grâce à ce réchauffement climatique, alors on verra la qualité des vins, on n'en est pas là, hein, mais avant que ça donne un petit peu. Mais il y a peut-être un nouveau métier de viticulteur breton, normand ou nordiste qui va sortir grâce à ce changement climatique, peut-être.
Le sud de la France a fait de grosses erreurs, parce qu'ils ont bénéficié à un moment donné, on était dans l'époque où on goûtait les vins, fallait de la puissance, fallait de l'alcool, fallait du tanin, et donc on a planté de la Syrah dans le sud de la France. Les anciens disaient la Syrah ne passe pas la frontière des oliviers, elle ne passe pas à Valence. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du nord de la vallée du Rhône, elle vient même de la Mondeuse Blanche de Savoie. Et donc, on a planté la Syrah dans le sud. Alors, je dis aux vignerons qui s'inquiètent, je leur dis, mais c'est vous qui avez changé le climat de la Syrah. Pour l'instant, vous n'avez plus changé que le changement climatique. Donc, c'est vrai que dans le sud, elle fait 16 degrés. Mais quand elle est au nord, elle fait 12 degrés. Donc, s'ils replantent du Cinsault qu'ils ont complètement oublié, ils auront des grands vins à 12 degrés 5. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur patrimoine de cépages anciens de la région.
Dans votre film, ça vous a amené jusqu'où, en fait ? Vous partez de l'Ardèche, vous allez jusqu'où, avec ces vins interdits ?
Alors, j'ai déjà fait un tour d'Europe.
Stéphane Ballet, ouais.
J'ai déjà fait un tour d'Europe, donc en Italie, où j'ai ramené le vin qu'on a dégusté. Je suis allé en Autriche, en Roumanie. Je voulais voir comment ces pays réagissaient face aux interdictions. Et je me suis rendu compte que dans chaque pays, la loi est adaptée. Elle est, par exemple, en Autriche, il y a une tolérance, une dérogation spéciale jusqu'en 2030, où on peut faire du vin, ils appellent le Hudler, c'est dans le Burgenland. Donc c'est un vin qui est très prisé, qui est très connu et qui fait la renommée de la région. Mais voilà.
Mais qui à terme sera interdit.
Ben, s'ils font rien pour prolonger la dérogation, ou si les lois européennes ne changent pas, effectivement, en 2030, tous les vignerons devront arrêter de produire ce vin-là.
Et en Roumanie ?
Et en Roumanie, alors la question, elle était différente parce que ils ont intégré l'Europe en 2007, et ils avaient une dizaine d'années pour se conformer aux lois européennes. Et en fait, on se rend compte que c'était impossible pour eux de se plier et de bouleverser leur économie. C'est un pays où la moitié de la surface des vignobles est plantée en hybride. Donc ça remet en question absolument tout le processus. C'est aussi le pays d'Europe où on trouve le plus de petites entités de production. C'est là où il y a le plus de viticulteurs. Alors, c'est des petites entités, c'est des petites familles.
Oui, mais...
Et ça fait vivre des familles. Vous leur retirez ça du jour au lendemain, mais c'est terrible. Ils peuvent pas se lancer dans une transformation de leur activité en investissant dans la vigne noble qui va demander de la main-d'œuvre pour traiter, les produits pour traiter, les machines pour traiter, etc., etc. C'est pas possible, c'est pas à leur portée. Voilà. Donc, il y a une sorte de tolérance sur les marchés où les inspecteurs ferment les yeux quand, bon, c'est dans des petites quantités. Ils disent rien, voilà.
Mais jusqu'à quand ? Alors le rôle de l'Europe, on va en parler dans quelques instants avec la rediffusion d'une autre émission consacrée au malaise paysan. Je signale que Vitis Prohibita, le film de Stéphane Ballet, fait l'objet de projections débat. Le 29, c'est à Mont-Laure, le 30 à Castelnaudary, le 5 février, Sainte-Foy-lès-Lyon, le 8 février à Château-Renard et le 13 mars à Saint-Martin-en-Haut. Tout de suite, on retrouve une véritable icône du rock. Bruce Springsteen continue de mettre à mal le rêve américain. Sundown dans le NRV. Sundown, un extrait de Western Stars, le dernier album de Bruce Springsteen. La programmation nocturne ce soir, bien sûr, pour Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Après le vin, on ouvre sur l'agriculture et plus précisément sur les agriculteurs. On leur avait consacré une émission en septembre dernier à l'occasion de la sortie du film Au nom de la terre d'Edouard Bergeon qui était notre invité. Il y racontait l'histoire de son père, agriculteur, ses combats, son suicide et à travers ce parcours, 40 ans de l'agriculture française. Le monde agricole est touché par de nombreux suicides, un suicide par jour en moyenne selon les chiffres de la mutualité agricole. Entre crise morale et situation économique difficile, comment va le monde agricole? Et quelles solutions pour l'agriculture française? Avec Benoît Lagan, on avait réuni autour d'Edouard Bergeon Arnaud Carpon, il est journaliste rédacteur en chef de terre-net.fr, Daniel Prieur, éleveur dans le Doubs, secrétaire général adjoint à la FNSEA, Isabelle Malsan, qui est journaliste à l'AFP, une spécialiste du monde agricole. Bande annonce.
Te voilà le propriétaire des grands bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille.
Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec.
Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein.
Pareil que t'es dans la merde.
Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système...
T'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi, au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde.
Pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir.
Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois.
Hein. C'est fini, grand bois. Si tu passais.
Edouard Bergeon, vous aviez déjà signé un documentaire, hein, Les Fils de la Terre, où vous suiviez des agriculteurs qui avaient connu le même parcours que votre père. Pourquoi fallait-il en passer par la fiction cette fois-ci?
Parce que j'ai eu la chance qu'un producteur incroyable, Christophe Rossignon, qui a produit des films très engagés, comme La Haine, comme Welcome, comme La Loi du Marché, m'appelle il y a 5 ans, après avoir vu Les Fils de la Terre, après que le DVD soit tombé sur son bureau et qu'il était touché par ce documentaire, parce qu'il est lui-même fils et frère d'agriculteur. Pas de hasard, on a les mêmes racines rurales. Et on s'est vus pour nous parler de nos familles respectives. Et puis à la fin du déjeuner, est née l'envie commune de réaliser un film de fiction. Donc moi, je suis du genre curieux et à sauter dans le train quand il passe devant moi. Donc j'y suis allé, hein, sans avoir fait d'école de ciné ou sans savoir écrire un scénario. Mais je voyais l'opportunité qu'il y avait de pouvoir raconter cette histoire en fiction. Là, c'est quand même la puissance du cinéma, c'est autre chose. Là, pendant 1h40, vous posez votre téléphone et vous êtes à 100% face à l'histoire qu'on vous raconte. Et il n'y a rien de mieux que les émotions qui rentrent au plus profond de vos cellules pour vous percuter, en fait. Et c'est comme ça que j'ai voulu ce film.
Ça voulait dire que vous vouliez faire un film engagé, puisque vous parlez de ce producteur qui a un parcours de film engagé.
Moi, je suis plutôt quelqu'un qui raconte des choses de la vie. Je suis un passeur, je suis un ancien journaliste, un documentariste, et je crois que je suis assez engagé parce que je creuse ce sillon agricole, parce que j'ai de la terre qui est collée à mes baskets, même à Paris. Hein. On quitte pas la terre comme ça. On est agriculteur, NAIT. Donc,
vous n'avez jamais eu l'intention de reprendre la ferme?
Mon père m'a toujours encouragé à bien travailler à l'école pour choisir mon métier. Mais bon, pour la petite histoire, je viens d'avoir mon BPREA, mon brevet de responsable d'exploitation agricole en novembre, pour reprendre les terres de ma mère, qui n'est pas à la retraite encore, parce qu'elle a dû continuer à payer un plan de redressement judiciaire après que mon père soit décédé, vous voyez, c'est sympa, et parce que la pension de reversion de mon père est de 200 euros par mois. Voilà.
Pour resituer cette histoire, l'histoire des dettes est arrivée comment en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
L'histoire des dettes.
40 ans d'agriculture.
Ça fait 40 ans que les denrées alimentaires sont pas payées plus cher que celles de mon grand-père et que les consommateurs veulent pas payer ce qu'ils mangent. Donc elles sont arrivées comment? Par un système aussi qui vous pousse à vraiment à investir. Hein. Il y a tout un système lié ensemble de coopératives, de chambres d'agriculture, qui peut pousser un jeune à investir dans une cathédrale. Je mange une cathédrale, une énorme ferme à 800 000 euros là, ça les dérange pas. Hein. Il y a rien de mieux qu'un agriculteur endetté. Ça fait vivre tout le monde.
Arnaud Carpon, Isabelle Malsan, vous avez vu le film d'Edouard Bergeon. Vous qui suivez l'actualité agricole, qu'est-ce qui vous a marqué plus particulièrement dans ce film, Arnaud Carpon?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est que vous parliez de film engagé. Pour moi, ce n'est pas un film engagé, j'ai ressenti la réalité de ce qui se passe dans les campagnes.
Oui, le trait n'est pas forcé. Ouais.
Le trait n'est absolument pas forcé.
Ouais.
J'ai ce point commun avec vous d'être aussi fils d'éleveur, aujourd'hui à la retraite. Tous les agriculteurs, je pense, Daniel pourra en témoigner aussi, tous les agriculteurs connaissent de près ou de loin la situation qui est décrite dans le film. Et c'est ça le drame. On parle de... on parlait de un tous les deux jours, on parle d'aujourd'hui de un agriculteur suicide tous les jours, mais c'est... même le chiffre d'avant est dramatique.
Et à partir de quel moment d'ailleurs ça s'est mis en place, ce rythme absolument délirant?
92, l'économie de marché qui prend le pouvoir, on financiarise l'agriculture, la PAC, on donne des aides compensatoires aux agriculteurs parce que les prix sont plus payés. Donc vous imaginez, vous payez, vous vendez pas votre produit au bon prix.
Au bon prix, ouais.
Et on vous donne des primes des aides compensatoires. Donc en plus, le grand public, il comprend pas parce que c'est.
Non, bien sûr, on le dit, on les aide, on passe son temps à aider les paysans.
Et l'agriculture la plus subventionnée, c'est l'agriculture américaine. Hein.
On donne des aides, mais en Daniel même temps, on les soumet à des obligations administratives qui, quelquefois, les perturbent dans leur fonctionnement de tous les jours. Et ça, c'est un élément important. Il y a un technicien agricole qui disait chez moi, soit l'agriculteur domine son exploitation, soit c'est l'exploitation et le système qui le domine.
C'est exactement
ça. Et ces gens qui tombent, je dirais, dans le suicide et dans cette perte de confiance en soi, c'est souvent le système qui domine.
Vous imaginez, il a perdu la fierté, mon père, de nourrir la France. On lui a dit, les technos de Bruxelles lui ont dit, tu vas mettre ton tas de fumier ici et puis il va falloir le dessiner. Dessiner le champ et dessiner où est le tas de fumier, puis il faudra mettre de la paille ou de la bâche dessous, parce que sinon, autrement, vous n'aurez plus vos aides compensatoires. Mais c'est quand même fou, on est loin du bon sens paysan, là.
Sur la question des prix, c'est très intéressant, parce que c'est l'une des principales clés du malaise aujourd'hui. Vous en parlez aussi dans le film.
On dit pas de pays sans paysan, mais pas de paysan sans revenu.
Sans revenu, exactement. Voilà. Je suis né en 80, et mes parents ont pris leur retraite en 2010. Ma mère, on discutait de leur fin de carrière. Ils étaient très heureux de prendre leur retraite. Et là, elle m'a dit, le prix du lait, on ne le vend pas plus cher qu'en 1980, année de ma naissance. Mais c'est ça qui est dramatique.
Tout ça avec un endettement bien souvent très élevé. Et moi, je voulais témoigner alors en tant que journaliste. Je voulais dire merci à Monsieur Bergeon, parce que pour enquêter sur ce sujet... C'est carrément complètement difficile, c'est un tabou. C'est un tabou de la société française. On n'arrive pas à voir les chiffres, on n'arrive pas à savoir le taux d'endettement des agriculteurs, on n'arrive pas à savoir exactement la situation. Votre film permet de percer la bulle, permet de lancer le débat et permet d'en parler de façon dépassionnée. Je voulais vous dire merci pour ça.
Merci à vous, merci. C'est important de ne pas juger et de pointer un syndicat ou un... Que ce soit juste factuel, justement, pour ouvrir cette voie qui est... Il y a une omerta sur les campagnes agricoles. J'essaie de mettre de la lumière sur, en tout cas, l'histoire que j'ai vécue, qui représente la France agricole, en fait.
Édouard Bergeon n'accuse pas...
Un
organisme,
simplement, les faits sont parlants, ouais.
Il y a effectivement, en toile de fond, un système qui ne va pas.
Bruxelles
Pas seulement Bruxelles.
Productiviste, chimiste.
Tout un système, un environnement qui tourne autour de l'agriculteur qui fait que ça ne va pas et qui fait qu'il n'est pas assez bien payé aujourd'hui pour bien vivre de son métier.
Isabelle Malson, vous avez fait récemment un reportage en Mayenne à la rencontre de nombreux agriculteurs. Le mal-être qui est présenté dans le film d'Edouard Bergeon, vous l'avez constaté. Quel état des lieux vous dressez-vous aujourd'hui de ce mal-être paysan?
J'ai rencontré des paysans en redressement judiciaire, toutes catégories, tous des éleveurs. Il y avait même un bio. C'est des gens qui se battent. Deux d'entre eux essaient de rester dans le jeu. Un a complètement changé de métier parce qu'il était trop endetté. J'ai perçu une tristesse gigantesque. Et vraiment des gens qui essaient de rester dans leur métier.
De rester sur leur terre.
Et qui ont du mal. Voilà. Et alors j'ai rencontré aussi, je sais que vous en parlez beaucoup, de cette association Solidarité Paysan, qui est une association formidable à mon avis, qui est une des seuls organismes qui aide les paysans.
C'est
en difficulté.
Elle qui fait le gros boulot.
Moi, je l'ai vu aussi pour mon travail de journaliste. Je me suis adressée à absolument tout le monde. Je n'ai jamais eu de réponse. Il n'y a que Solidarité Paysan qui m'a parlé du sujet.
Et quel est son rôle précisément?
Des suicides. Ils vont vers les paysans en difficulté et ils les aident sur deux plans. Ils les aident sur le plan administratif et financier. Comment régler leur bilan comptable? Comment gérer avec le tribunal? Comment engager une procédure de redressement judiciaire? Un d'entre eux m'a même dit, je voulais me placer en redressement judiciaire, mais le cabinet comptable ne voulait pas parce qu'il voulait le centre de gestion voulait être payé d'abord.
C'est de la cogestion, donc, c'est lié à tous les organismes.
Ils les empêchaient de se mettre en redressement judiciaire. Donc ils étaient pris dans un espèce de tourbillon et ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et c'est cette association qui les a aidés.
Alors, une petite précision aussi, ils font de la veille auprès des agriculteurs en difficulté et ils ne bougent pas tant qu'il n'y a pas eu un signalement. Et ce signalement, ça vient souvent de la femme.
De la femme,
ou de la fille. Ou de, voilà,
ça peut venir de la famille,
Ça peut venir aussi de la MSA.
Daniel Prieur.
De la MSA, il y a des partenariats, MSA, voilà. Mutualité sociale MSA, agricole.
Mutualité sociale agricole, ouais. Qui constate, je dirais, des difficultés pour le paiement des cotisations sociales. Mmh. Et puis, si l'assistante sociale se rend sur place, elle constate que des fois, il y a des difficultés qui sont supplémentaires à simplement une difficulté économique.
Mais il est très schizophrène, ce système agricole. La MSA, c'est le premier collecteur d'impôts de l'agriculteur, 45% du revenu part à la MSA, et en même temps, c'est celui qui fait la sécurité sociale des agriculteurs, c'est eux qu'il faut appeler quand ça va pas. Vous appelez, vous, votre premier créancier ?
Non.
Ben heureusement qu'il y a Solidarité Paysan. C'est 1000 bénévoles, des agriculteurs à la retraite, qui aident justement, qui passent dans les campagnes et qui accompagnent des familles. C'est plus de 1000 nouvelles familles suivies chaque année. Et s'il y avait plus de moyens, il y en aurait heureusement ou malheureusement plus.
Dans une époque où alors, on le cesse de parler du mieux manger, il y a aussi un autre problème qui concerne le monde paysan. C'est ce qu'on appelle l'agri-bashing. Dans le journal de 20h de France 2 au mois de septembre, on entendait ce reportage. Écoutez.
Bah, des bras d'honneur, des doigts d'honneur, des gens qui s'arrêtent en se bouchant le nez.
Tout d'un coup, il a monté le marchepied du tracteur et m'a donné une dizaine de coups de poing. J'étais coincé dans la cabine et ne pouvais pas bouger.
Pour eux, on est des pollueurs, des empoisonneurs, on emploie des produits dans les champs et les gens ne comprennent pas ce qu'on fait.
Bon, des menaces de mort, des gens qui veulent venir brûler les bâtiments. Qu'on est des nazis, qu'on ne devrait pas maltérise les animaux, voilà, on nous fait passer vraiment pour des bourreaux.
Comment on réagit à la FNSEA par rapport à justement cet agri-bashing, c'est-à-dire même les fermes qui sont attaquées par les militants de la cause animale, entre autres?
Alors comment on réagit?
Daniel Prieur.
Déjà, on signale toute dérive qu'il peut y avoir et on porte plainte systématiquement quand il y a des intrusions dans les fermes.
Il y en a de plus en plus?
Ah, il y en a de plus en plus. Alors après, on a tenté et on continue de tenter toutes des opérations de communication pour expliquer ce qu'est notre métier. Moi, je suis président de ma chambre d'agriculture dans le Doubs, et dans ce cadre-là, on fait des dimanches à la ferme, où on invite la population à venir voir comment ça se passe. Et moi, j'ai insisté beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tout ce qui fait débat avec la société, que ça soit l'emploi des produits phytosanitaires, que ça soit l'emploi des engrais. Mais mon fils qui me donne le coup de main de temps en temps sur l'exploitation, on était sur une exploitation tout en herbe. Il a entendu un gaillard qui a baissé sa vitre en passant et qui a traité de sale pollueur.
Arnaud Carpon.
Aujourd'hui, ce qu'on entend par agri-bashing, plus justement la pression sociétale, elle est de deux niveaux. Un qui attaque la production végétale sur l'usage des produits phytosanitaires dans les champs, qui pose question à la société aujourd'hui, à juste titre ou non. Il y a aussi la question de l'élevage du bien-être animal, pour lequel s'est emparée une, deux, trois associations antispécistes. Et là, ça pose question. Aujourd'hui, il y a des éleveurs, ils se demandent le matin si ils vont retrouver des tags sur leur ferme, dans leur hangar, si leurs vaches seront encore dans l'étable en bonne santé. Ou s'il n'y aura pas un problème. Donc il y a ces deux niveaux-là qu'il ne faut pas mélanger, parce qu'ils sont d'origine diverse, mais tout ça contribue à une pression sociétale qui n'a jamais été aussi forte dans le monde agricole. On a demandé au monde agricole, dans les années 50, après-guerre, de produire plus, parce qu'on avait besoin de nourrir la
Pisani
France.
Pisani en 62.
Voilà. Et les agriculteurs ont très bien fait le job. Mieux que ce qui était,
ah oui, c'était très bon, c'était
prévu. Ouais. Ils ont répondu à la commande de l'État.
Un effort au plan Marshall.
De redresser l'agriculture française. Et ça, les agriculteurs y ont très bien répondu. Aujourd'hui, la société questionne le monde agricole. Peut-être parce que le monde agricole n'a pas assez communiqué sur ce qu'il faisait en amont. On arrive à ces situations-là qui sont regrettables et qui font que la pression sociétale contribue aussi à l'énorme malaise du monde agricole.
Et vous voudriez que ça bouge dans quel domaine exactement en fait? Qu'est-ce qui devrait bouger, la première chose?
Bah déjà, il faut éteindre l'incendie. Un agriculteur qui se suicide chaque jour, c'est pas possible. On est capable de mettre des boîtes automatiques qui fait des images pour la sécurité routière. Alors, ça rapporte de l'argent. Mais on peut peut-être, c'est important la sécurité routière, on a réussi à baisser le nombre de tués sur la route. On peut peut-être réussir à baisser le nombre de paysans tués dans leurs champs.
Quelles seraient les premières mesures à prendre d'après vous, Arnaud Carpon?
C'est difficile à dire.
Mais non, mais faut, voilà, un minimum de prix garanti.
C'est un travail de fond.
Ne pas ratifier le Mercosur.
De ne pas ratifier le Mercosur,
mais c'est 40 000 éleveurs.
Ouais.
L'Autriche a bloqué et pour l'instant le président Macron bloque, mais je sais pas, pour l'instant...
C'est crucial. C'est l'enjeu de toute la filière élevage en France, l'accord Mercosur. Si l'accord Mercosur est signé, moi je ne suis que journaliste, je ne suis pas spécialiste,
Isabelle Malsan,
mais
hein.
Si l'accord Mercosur est signé, les éleveurs de la filière bovine
et avicole,
et peut-être avicole aussi, sont menacés directement. Et les Irlandais aussi, en Europe, pas seulement les Français.
Daniel Prieur.
Ouais, sur ces sujets des accords internationaux, nous on est contre les accords internationaux, hein, parce que et on l'a transformé, je dirais, aussi dans un message sociétal.
Oui, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FNSEA.
Le message sociétal, c'est n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. Parce que le gros changement pour moi, qu'on est en train de vivre, c'est qu'on allait de l'agriculture à l'alimentation, et on va de plus en plus aller de l'alimentation vers l'agriculture. Et il faudra que l'agriculture soit compatible avec l'alimentation que les gens veulent. Quand on parle d'évolution de la PAC, ce qu'il peut y avoir sur le bio, ce qu'il peut y avoir sur des circuits de proximité, ce qu'il peut y avoir dans la modernisation des façons culturales pour se passer le plus possible des produits phytopharmaceutiques qu'on appelle pesticides dans le grand public, c'est le combat dans lequel nous on s'intègre aujourd'hui.
Et à la fois à la FNSEA, vous devez être minoritaire, non?
Ils n'ont pas tous le même discours.
Ils n'ont pas tous le même discours que vous.
Hein, ah oui, mais bon...
On a bien choisi notre invité, mais quand même.
Il y a la COP de France, il y a l'UIPP, l'Union syndicale des produits phytosanitaires.
Manuel Valls, il était bien au Parti Socialiste, et puis il avait des propos assez économistes qui ressemblaient à la droite. Et puis un Jacques Barrot, il était bien ministre de Chiracus, tout en étant...
Si vous nous faites la liste de tous les traîtres, on ne va pas s'en sortir.
Moi, je n'ai pas de problème, ni avec mon passé, ni avec mon avenir. Donc les choses, elles sont claires. Moi, je suis à la FNSEA, et je le revendique fortement. Je ne voudrais pas qu'on fasse, je dirais, en disant... Ah ben ils ont envoyé Prieur, c'est le mec de gauche qui va très bien aller avec les intellos de France Inter.
J'adore.
Non mais moi j'ai pas de langue de bois. Moi je sais l'agriculture que je pratique, et en tant que président de chambre d'agriculture depuis 12 ans, je sais où c'est que j'ai envie de conduire les gens.
Il est dans le Doubs, il est pas dans le bassin parisien. Parce que les enjeux et les lobbies sont quand même pas les mêmes partout. La chimie, c'est clair qu'il va falloir qu'on en sorte. Les pesticides, c'est fait pour tuer le vivant, les fongicides, les herbicides. Quand on tue les vivants des plantes ou des animaux et qu'on consomme et qu'on ingère des produits qui ont été pesticidés, on va dire un néologisme, on tue le vivant chez nous aussi. Mais j'entends ça quand j'entends certains de vos confrères de, voilà, sans nommer, voilà, et qui ont dit que la phytochimie, c'est un médicament des plantes et qu'il faudra bien, de toute façon, la développer pour nourrir 9 milliards d'êtres humains sur Terre parce que ça passe par la sécurité alimentaire. Mais c'est plus possible ce discours.
Alors il y a une phyto-industrie qui se développe, qui s'appelle le biocontrôle. Même les grands groupes développent ça fortement en ce moment. Et c'est à base de solutions naturelles. Donc on peut espérer qu'il y a un virage qui est en train d'être pris. Les grands groupes, les Bayer et compagnie travaillent au maximum là-dessus. Et c'est par exemple, pour donner un exemple tout à fait concret, c'est utiliser des coccinelles pour manger des petits vers au lieu de mettre de la chimie.
Ça marche, hein.
Ou utiliser des champignons, des moisissures, tout un tas d'éléments naturels pour essayer de faire jouer la nature le rôle qu'on faisait jouer à la chimie.
Puis les moisissures, ça a du bon dans le fromage ou dans le vin? On sait le faire plutôt pas mal en France.
De toute façon, ce que je préfère, c'est la croûte.
C'est Pasteur, c'est Pasteur.
Voilà. Je voudrais juste abonder encore. C'est pas simple, en fait.
Édouard Bergeon.
Parce que le débat, on oppose un débat très technique. Le glyphosate à 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres. Quoi qu'il arrive, à la fin, ça se retrouve dans la nappe phréatique.
Bien entendu.
Sauf que, ok, haro sur les pesticides, là, tout de suite, demain, maintenant, sans solution. Mais alors, on arrête d'importer du soja OGM brésilien, arrosé de glyphosate pour le faire mûrir, et pas en interculture comme chez nous. Qui va servir aussi ce soja à faire des produits véganes, hein. Pas de problème.
D'où l'idée même d'un modèle presque français par rapport au reste du monde. C'est Éric Delachaîné, le journaliste au Figaro, qui demande qu'il y ait une exception agricole comme il existe une exception culturelle, Arnaud Carpon.
Bah oui, parce que... Mais on revient à la logique économique, hein. Demander aux agriculteurs aujourd'hui d'arrêter les produits phytosanitaires de synthèse, c'est comme dire du jour au lendemain, c'est dire aux buralistes, demain matin, vous pourrez plus vendre de tabac, débrouillez-vous.
Ou plus de gasoil pour les voitures diesel.
Ou plus de gasoil pour les voitures diesel.
Ça donne des gilets jaunes très vite. Hein.
Automobilistes, débrouillez-vous.
C'est tout simplement impossible.
Il y a une transition sur la question des produits phyto. Il y a une transition à opérer. Effectivement, la direction, c'est très probablement de sortir de la chimie.
On n'a pas le choix, de toute façon.
Isabelle a parlé du travail des entreprises phytopharmaceutiques pour aller vers le biocontrôle. C'est sans doute l'avenir. Mais on peut pas demander, et là, il y a sans doute une responsabilité de l'État sur la question du glyphosate. Quand Emmanuel Macron dit on va sortir du glyphosate à telle échéance, sans connaître même les solutions qui sont applicables à la grande majorité des agriculteurs. Et aujourd'hui, ça participe au malaise paysan, aux attaques que subissent certains agriculteurs.
Alors, dans le dossier de presse qui accompagne le film d'Edouard Bergeon, il y a quelque chose qui m'a un petit peu scandalisé. Vous dites, quand l'atelier de poulet industriel de mon père marchait, il gagnait un franc par poulet, c'est-à-dire presque rien. Qui sont les responsables de ces dérives?
Bah, les gros groupes coopératifs. Les coopératives, c'est une belle initiative après la guerre. Hein. Ce sont des paysans qui s'unissent entre eux pour vendre leurs produits. Sauf que, financiarisation, encore une fois, les HEC ont pris le pouvoir des coopératives. Les directions ont fait que les agriculteurs avaient plus ce pouvoir coopératif quand ils votaient à l'Assemblée Générale annuelle. Et puis, ils ont perdu le lien avec les consommateurs. Et puis, c'est devenu des gros groupes. Et puis, je raconte le système de l'intégration dans ce film. C'est-à-dire comment on vous pousse un groupe coopératif à investir dans une fameuse cathédrale. J'aime bien ce thème parce que c'est énorme l'investissement.
Une super ferme, ouais.
Un super bâtiment où là, on vous amène les poulets ou les veaux ou les porcs, c'est pareil, l'aliment.
L'aliment, on vous amène tout.
Tout, clé en main, sauf que en son nom propre, l'agriculteur investit dans ce bâtiment, l'électricité, l'eau, les produits vétérinaires, c'est lui. Puis à la fin, on lui dit, selon les cours de marché, on te donnera ce qui reste. Et nous, quand à l'époque, c'était bien, c'était un franc. Et quand c'était moins bien, on pouvait perdre de l'argent sur une production. C'est quand même dingue.
Arnaud Carpon et ensuite Isabelle Malsan.
Aujourd'hui, il y a un problème dans la structuration de la chaîne alimentaire. On a laissé le pouvoir, en France ou ailleurs,
on laissait
se constituer quatre centrales d'achat.
Des empires.
Des empires qui ont la main sur l'amont et le client. C'est eux qui ont la main aujourd'hui. Et c'est ça qui pose problème.
Isabelle Malsan, pour finir.
Alors, pour donner une petite note d'espoir, moi, je voulais vous parler des objectifs de bio, par exemple. On doit passer de 7,5% à 15% de surface en bio en France d'ici 2022. J'ai rencontré la semaine dernière des représentants, des dirigeants du Crédit Agricole qui ont décidé de lancer une offre de crédit spéciale pour les agriculteurs bio. C'est la première fois qu'ils y pensent. C'est incroyable, mais ils y pensent. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui bougent. Ça bouge très lentement, mais il faut continuer à en parler, il faut continuer à faire pression pour que des gens puissent faire des choses pour nous nourrir correctement et eux, vivre.
Voilà. Mais le pouvoir est à nous, aux politiques avec un grand P, ça bouge. Le patron d'Intermarché vient d'annoncer qu'il sortait 150 additifs chimiques de leurs produits, de leur propre fabrication. Parce que les consommateurs, ils font Yuka, voilà, ils sortent leur appli, ils font qu'est-ce qui va me rendre le moins malade dans les... Et ça rend malade, ils n'achètent plus. Vous voyez, si à un moment donné, on arrête d'acheter certains produits, les industriels, ils arrêteront de les faire. Voilà. Donc, moi, j'ai de l'espoir, et la jeune génération, elle a compris. Voilà. Et ça passe par l'éducation, des jardins dans les écoles, les mains dans la terre, retour du vivant, l'éducation alimentaire à midi. On a le pouvoir de faire changer les choses. Moi, je suis très optimiste. C'est pour ça que j'ai fait un film coup de poing. Parce que quand on prend un coup de poing, on est ébranlé. Quand on est ébranlé, on réfléchit. Et puis quand on est ému, c'est le plus beau des sentiments, l'émotion. Non ?
Eh bien, les spectateurs ont reçu le message, émus et ébranlés. Ils sont plus d'un million à avoir vu ce film Au nom de la Terre, qui sortira en DVD le 4 février prochain. Il est temps tout de suite de partir en live avec Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Alors pour cette deuxième émission de 2020, la barre est haute, Marion Guilbeault.
Oui, mais c'est à sa hauteur, Laurent. On la connaissait, chanteuse, guitariste d'Alabama Shakes, ce groupe américain qui emmenait la soul vers des territoires électriques surchauffés. On retrouve Brittany Howard en solo pour un album autobiographique, Jamie. C'est en hommage à sa sœur décédée trop tôt. C'est un disque également politique sur ce que c'est d'être une femme noire dans les États-Unis d'aujourd'hui.
You know, and you don't want to.
Stay High avec la voix aussi puissante que bouleversante de Brittany Howard en live avec ses musiciens.
C'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV la suite. Toujours plus de France Inter. Le NRV, c'est Marion Lelay, Juliette Medevielle à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rosic, Clémence Diligent, Benoît Lagan.
Rendez-vous.